2h ici à Paris, minuit en temps universel et 3h à Gaza.
Antoine Galen.
L'aide humanitaire entre à Gaza, mais les bombes israéliennes ne s'arrêtent pas. L'armée israélienne a émis un avis d'évacuation pour 14 quartiers du nord de l'enclave. 90 camions d'aide humanitaire ont pu rentrer sur le territoire palestinien. Une goutte d'eau dans l'océan pour les Nations Unies. Nouvelle sanction de Bruxelles à l'égard de la Russie. Le Parlement européen s'attaque cette fois aux engrais russes. Une manière de priver Moscou d'une source de revenus importante, mais les agriculteurs redoutent une augmentation des prix. Vous l'entendrez. Aux États-Unis, c'est un dîner qui suscite de vives réactions. Donald Trump reçoit en ce moment les plus gros détenteurs de sa crypto-monnaie, le Trump Coin. Les démocrates dénoncent un risque de corruption. Et puis, l'Australie fait face à des pluies torrentielles. Deux morts et près de 50 000 personnes piégées. Le pays est régulièrement victime de catastrophes climatiques et de conditions météorologiques extrêmes. Des ordres d'évacuation en cascade pour les habitants du nord de Gaza, notamment dans le camp de Jabalia. À chaque fois, c'est le même scénario à Gaza. Des tracts qui tombent du ciel, la panique et ce choix qu'il faut prendre. Rester et prendre le risque de mourir dans un bombardement ou partir sans savoir où aller. Sur place, les bombardements ne font qu'empirer. La défense civile palestinienne fait état de 52 morts ce jeudi. Et sur les dernières 24 heures, près de 100 Palestiniens ont été la cible des bombardements. Alice Roussard.
Israël ne cesse d'intensifier ses attaques, affirme que le but affiché est, je cite, d'éradiquer le Hamas, mais pour les Gazaouis, pour les travailleurs humanitaires, pour les juristes, la stratégie est de plus en plus claire et de moins en moins cachée. L'objectif assumé d'Israël est de contraindre les Gazaouis au départ et s'emparer de la totalité du territoire devenu invivable depuis déjà des mois. Quant à la situation humanitaire, elle est catastrophique. Malgré les annonces, l'aide entre seulement au compte-gouttes, ce n'est qu'un écran de fumée pour faire croire que le siège est terminé, dénonçait hier Médecins Sans Frontières. Cet après-midi, c'est le Croissant Rouge palestinien qui affirmait n'avoir toujours pas reçu de livraison, tout en précisant que le si petit nombre de camions autorisés est, je cite, une invitation au meurtre à cause du risque de rassemblement massif autour des points de distribution. C'est déjà le cas sur des images provenant de Nusayrat, au centre de la bande de Gaza. On voit une marée humaine, des gens qui se bousculent, qui s'agrippent aux murs, tous rassemblés devant une boulangerie qui a commencé à refaire du pain après les premières livraisons de farine.
Et dans le même temps, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou indique avoir choisi le général de l'armée David Zinni comme prochain chef du Shin Bet, l'agence de la sécurité intérieure. La procureure générale a réagi en dénonçant un processus de nomination vicié. Elle ajoute qu'il existe un sérieux soupçon que Benjamin Netanyahou ait agi en situation de conflit d'intérêts. Le Parlement européen adopte des surtaxes sur les engrais russes. À partir de juillet, ces engrais peu chers sur le marché européen, car produits avec du gaz russe bon marché, commenceront à être taxés. Bruxelles veut ainsi priver Moscou d'une source de revenus. Mais les céréaliers s'inquiètent, car ils risquent eux aussi de payer leurs engrais plus chers. Philippe Ezel est le secrétaire général de l'Association Générale des Producteurs de Blé.
C'est une grosse déception parce que cette taxation avérée maintenant a entraîné une forte inflation des prix de l'engrais sur le marché intérieur de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que cette taxation des engrais russes, qu'on peut comprendre, nous inquiète fortement? Déjà, les engrais russes et biélorusses constituent à peu près un bon tiers des importations des engrais azotés, notamment dans l'Union européenne. Donc cette part importante des engrais russes, s'ils sont taxés, va automatiquement entraîner une inflation similaire des prix de l'engrais. Pourquoi ? Parce que les engrais russes sont en général font les prix directeurs du marché et payer les engrais plus cher que tout le monde, eh bien vient grever notre compétitivité de façon importante, très importante même pour les céréales.
Philippe Ezel, secrétaire général de l'Association Générale des Producteurs de Blé. C'est un dîner qui fait polémique aux États-Unis. Donald Trump reçoit en ce moment les plus gros détenteurs de sa crypto-monnaie, le Trump Coin. Une rencontre qui mêle pouvoir et intérêts privés. 220 personnes qui ont détenu près de 50 000 dollars de sa monnaie numérique sont invitées. À Alors l'opposition démocrate crie au conflit d'intérêts et le secrétaire d'État américain Marco Rubio plaide l'ignorance. Théo Conscience.
Je ne savais même pas qu'il y avait un dîner ce jeudi. Interrogé sur la présence d'invités étrangers au dîner donné par Donald Trump, Marco Rubio botte en touche. Il ne savait pas que le président américain reçoit ce soir les plus gros détenteurs de Trumpcoin, la crypto-monnaie qu'il a lancée peu après son investiture, et il ne savait pas que 25 de ses invités auront droit à une audience privée avec le chef d'État à la Maison Blanche. Le président a des relations et des amis étrangers depuis longtemps. Cela n'a rien d'inhabituel, assure le chef de la diplomatie américaine. Je pense que cela représente un réel problème, lui répond le démocrate Chris Murphy, membre de la Commission des affaires étrangères du Sénat.
Il existe clairement un moyen pour des étrangers très riches et très influents de contourner le département d'État pour faire du lobbying directement auprès du président.
Pour Chris Murphy et pour les démocrates, en mêlant affaires personnelles et affaires d'État, Donald Trump monnaie son influence et l'accès au gouvernement américain au risque de voir des individus, mais surtout des puissances étrangères en profiter.
Direction l'Australie où des pluies torrentielles se sont abattues sur l'est du pays depuis ce mercredi. Le bilan actuel des autorités est de 2 morts et 50 000 personnes piégées dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud. Près de 2500 secouristes ont été déployés dans la région. Les conditions devraient commencer à s'améliorer lentement dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors ce n'est pas une première. L'Australie, qui est candidate pour accueillir la COP31 en 2026, est régulièrement victime de catastrophes climatiques et de conditions météorologiques extrêmes. Et pourtant, sa manière de lutter contre le dérèglement climatique est pointée du doigt par les scientifiques. Juliette Pietraszewski.
La science est claire, le réchauffement climatique est causé principalement par la combustion du pétrole, du charbon et du gaz qui augmente le nombre et l'intensité des catastrophes climatiques. L'Australie en sait quelque chose, touchée en ce moment par de vastes inondations, le pays subit de plus en plus régulièrement des incendies dévastateurs. En 2019-2020, l'équivalent d'un pays comme le Sénégal était parti en fumée. 400 personnes sont mortes et 3 milliards d'animaux ont péri dans les flammes et pourtant l'Australie reste un très mauvais élève dans la lutte contre le réchauffement climatique. Grand producteur d'énergie fossile, son économie en dépend. Ce paradoxe est régulièrement dénoncé par des ONG. Dernière contestation en date, un projet gazier de l'entreprise Woodside. La société veut prolonger de 40 ans sa durée de vie. Les défenseurs de l'environnement alertent sur les impacts de l'usine, mais selon la presse locale, leurs inquiétudes ne sont pas partagées par le nouveau ministre de l'Environnement. Les ONG dénoncent ainsi une hypocrisie, alors que l'Australie reste l'un des 3 premiers exportateurs mondiaux d'énergie fossile. Le pays souhaite accueillir la COP31 sur le climat en 2026.
Lui n'est pas en Australie, mais plutôt à Cannes. Il s'agit de Julian Assange. Il est au plus grand festival du monde consacré au cinéma. C'est en ce moment un événement où 22 films sont en lice pour la Palme d'Or. Cannes, c'est aussi des avant-premières mondiales. Julian Assange a d'ailleurs présenté un film qui retrace sa vie, The Six Billion Dollar Man. Guillaume Thibault.
Sur le tapis rouge, un an après sa libération, après son accord avec la justice américaine, Julian Assange a tenu à rappeler qu'il restait un militant. Sur son t-shirt, les noms des 4986 enfants de moins de 5 ans tués à Gaza, inscrits au dos « Stop Israël ».
My name is Julian Assange.
Tout le monde connaît Assange, mais avec le temps, la masse d'informations a dilué cette histoire. Le documentaire d'Eugène Jarecki retrace près de 15 ans de lutte depuis la création de Wikileaks et la diffusion des premières vidéos qui montraient les exactions de l'armée américaine en Irak, puis l'asile politique offert par l'Équateur, les années enfermées dans l'ambassade de ce pays à Londres. Le titre « L'homme qui valait 6 milliards » fait justement référence au deal entre l'Équateur et les États-Unis pour livrer Assange, comme le dit l'un des avocats de l'activiste. Ce film documentaire regorge d'archives inédites, de témoignages qui permettent de comprendre les pressions, notamment du président américain Donald Trump, qui après avoir déclaré « I love Wikileaks » a fait d'Assange, mais aussi des médias, une cible. Si le pessimisme est de mise, Julian Assange et tous ses intimes n'ont pas fini de lutter et prônent, comme le dit cette chanson qui ouvre l'homme qui valait 6 milliards, « Ne me dis pas ce que je dois dire, ce que je dois faire, je ne t'appartiens pas, je suis libre. » Tiffany Menta, Guillaume Thibault, Cannes, RFI.
RFI. Il est bientôt 2h10, ici à Paris, minuit 10, en temps universel. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.